Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aligre FM. Il est 9h01, Nadia et Taïeb au micro pour une émission un peu spéciale que je vous propose aujourd'hui. Alors vous le savez peut-être, depuis lundi et pendant une semaine, l'équipe d'Aligre FM vous propose d'écouter des voix venues d'ailleurs. Et comme à la radio, les voix sont un peu nos visages. C'est aussi notre manière de donner une identité à celles et ceux qui sont trop souvent désignés par des chiffres, chiffres parfois tragiques de ceux qui perdent la vie en voulant quitter leur pays, ou qui sont désignés par des mots réducteurs, migrants par exemple, qui feraient de l'errance une identité. Bechr et Massoud, nous préférons ne pas donner leur nom pour des raisons que vous comprendrez, ont quitté chacun leur pays pour venir vivre en France. Ils sont réfugiés politiques et apprennent le français à Nanterre où ils sont inscrits au DU Passerelle. Ils sont mes invités ce matin. Bechr, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin dans le cadre de cette semaine que nous avons intitulée sur Aligre FM Voix sans frontières. Vous avez quitté la Syrie, plus précisément votre ville, et quelle ville ? Alep. C'était en 2017. On en parlera tout au long de cette heure que nous vous consacrons aujourd'hui, ainsi qu'à Massoud. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez également quitté le Bangladesh en 2017 pour des raisons tout à fait différentes que celles de Bechr, qui a fui la guerre. Vous aviez fait des études en économie. Un business, business administration, c'est,
oui,
ça.
C'est ça.
Pendant 5 ans, vous avez travaillé au gouvernement bangladais avant de vous expatrier pour travailler pour une multinationale.
Oui.
Bechr, vous étiez de votre côté à Alep, militant, et vous faisiez partie de cette jeunesse qui luttait pour obtenir plus de liberté, ce qui vous a conduit à participer à des actions pour mettre en place des institutions dans la ville d'Alep, divisée entre les forces du parti de Bachar al-Assad et les forces révolutionnaires, puis finalement à quitter le pays parce que tout cela devenait trop risqué, avec une première étape en Turquie. Voilà, j'ai bien résumé ?
Oui.
Bonjour à tous les deux, bienvenue sur Aligre FM et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bechr, je me tourne vers vous d'abord pour vous demander un petit peu de nous parler de cette ville, Alep, qui n'est pas n'importe quelle ville en Syrie. C'est la deuxième plus grande ville après Damas et c'est un creuset civilisationnel puisque c'est l'une des villes les plus anciennes au monde.
Oui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et tous les travailleurs d'Aligre FM. Je suis né à Alep. Alep est une ville très ancienne. Elle a presque 12 000 ans. Et je pense qu'elle est la capitale économique en Syrie. Je pense qu'elle est le plus grand de ville en Syrie. Une ville très ancienne et il est connu de le musicien. Par exemple, il y a un chanteur très connu, Sabah Fakhri, il s'appelle. Et il y a beaucoup de musiciens et chanteurs en arabe. Et elle est connue encore de savon d'Alep. Elle est très connue dans le monde. Oui, c'est ça.
Et c'est une ville qui se trouve pas très loin de la frontière turque,
oui,
à 45 kilomètres que oui. Vous avez franchi. Mais j'aimerais qu'on reste d'abord sur cette ville où vous avez grandi et où vous avez entamé des études de droit. Avant de participer à la révolution qui a secoué le pays en 2011, et on connaît la suite, quelle était votre vie comme étudiant à Alep?
Ma vie à Alep, elle était très agréable. Elle était quotidienne, mais Pour nous, les Alepiens, on considère l'Alep le paradis. les relations entre les gens très fortes, la solidarité entre les gens est très bien. On est toujours fiers de notre vie. On a une grande université à Alep où j'ai étudié parce que j'ai étudié le droit à l'université d'Alep. C'est ça.
Et vous viviez, je crois, dans la partie ancienne de la ville, qui est très importante parce qu'il y a la ville est inscrite au patrimoine de l'humanité. C'est une grande ville industrielle, mais c'est aussi, je le disais en introduction, le berceau d'une très longue histoire. Et vous viviez, vous m'avez dit,
oui.
Tout près de la citadelle, qui est un des monuments les plus importants.
Oui, j'habitais à côté de Château d'Alep. Et dans l'ancienne ville, dans les rues anciennes, à côté des monuments principaux dans Alep.
Oui, et c'est donc il y a cette citadelle fabuleuse, il y a aussi l'un des plus grands souks au monde à Alep et la mosquée des Omeyyades qui a été détruite. On a vu les images pendant la guerre civile. Que reste-t-il aujourd'hui de ce patrimoine d'Alep, de cette histoire d'Alep aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, malheureusement. Je pense c'est pas tout, mais la majorité des éléments principaux à Alep, ils sont détruits, soit totalement et soit partiellement à cause de l'exploser et pomper
des explosions, des bombardements,
D'avions, oui, d'avions par des avions de régime d'Assad. Malheureusement, la ville d'Alep a perdu beaucoup dans cette guerre. Parce que, comme on a dit, Alep a divisé en deux, et c'est ça, pardon, et c'est ça conduit à Alep a vécu longtemps dans la guerre, presque 5 ans. guerre, elle était très forte dans cette période, qui a fini de la perdre la ville et perdre on a perdu on est encore perdu beaucoup et à la fin on est sorti. On est déplacé dans notre ville, malheureusement.
Oui. Alors, vous avez participé à des instances qui ont essayé de mettre en place des institutions dans la partie de la ville contrôlée par les forces révolutionnaires. Vous étiez notamment dans un conseil municipal, c'est
oui,
ça?
C'est ça, parce qu'après la révolution, le régime... comme on a dit, la ville est divisée en deux et la partie qui était avec les révolutionnaires, il n'y a pas des institutions, il n'y a pas des services. On a commencé pour on a réunié et on a commencé pour constituer cette institution. On a fait un conseil municipal oui. Qui je pense 2013 et j'étais un membre dans le conseil principal.
Quelle était votre vie quotidienne à ce moment-là à Alep, Béchr?
J'étais journaliste à côté de ça.
Oui.
J'étais journaliste. J'ai commencé de.
Vous avez arrêté vos études de droit pour faire du journalisme.
Oui. C'est pas pour faire le journaliste. J'ai arrêté mes études parce que c'est devenu très dangereux parce que. Je ne peux pas aller à l'université. À l'université, à contrôler le régime. Mm-hmm. C'est devenu très compliqué de continuer mes études. J'ai quitté mes études, j'ai arrêté mes études et j'ai commencé d'autres vies professionnelles comme ça. Ce n'est pas professionnel parce que j'ai dû. J'ai trouvé moi-même devant un devoir. C'est quoi le devoir? Le devoir, c'est prendre les photos et filmer pour témoigner les actions que le régime ont fait dans cette période. Il explosait, il pompait la ville, notre ville.
D'accord. On va revenir, Bech, avec vous tout à l'heure et évoquer notamment les circonstances dans lesquelles vous avez dû quitter la Syrie. Mais d'abord, je voudrais me tourner vers Massoud, qui est également avec nous ce matin. Massoud, vous avez également quitté le Bangladesh, je le disais en introduction, en 2017. Oui. Le Bangladesh est un pays qui était en plein développement, qui l'est un peu moins depuis le Covid. Oui. Et vous êtes, après vos études... vous avez travaillé au ministère du développement, vous aviez alors 23 ans et vous m'avez expliqué lorsque nous avons préparé ensemble cette émission que c'était pour vous l'occasion de mettre en place des programmes de développement dans des villages déshérités, des villages où vous avez mis en place des projets pour une énergie renouvelable, par exemple, une énergie solaire, mais aussi vous avez travaillé sur des microcrédits. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui motivait cet engagement au Bangladesh avant votre départ? Pourquoi vous avez choisi de vous engager dans ce ministère du développement?
Dans notre pays, le Bangladesh, tout le monde a envie de travailler au gouvernement. C'est un travail très, très prestigieux.
Prestigieux?
Prestigieux,
oui.
Pour moi aussi. J'ai réussi, j'ai commencé à travailler au gouvernement, au ministère du Développement. C'était très très intéressant parce que je peux travailler avec des gens qui n'ont pas assez de ressources et qui habitent loin au petit village. Une area rurale, on peut dire, urban. C'était...
En zone rurale,
ou,
donc.
Zone rurale, loin oui. de la capitale, loin de oui. Une région...
Dans quelle région? C'est à l'est, au sud?
Oui, au sud, au nord, presque à côté de l'Inde, quelquefois, parce que c'est le frontière, il n'y a pas de... d'électricité et des choses. On a lancé un programme pour donner l'électricité avec des panneaux solaires et c'était un succès et tout le monde aimait parce que maintenant c'est le temps moderne, tout le monde a eu le portable et des choses et on a besoin de charge, recharge. Toutes les choses, mais c'était très très bon et j'étais content pour contribuer de mon part.
Donc c'était pour vous un engagement, mais un engagement... Alors non, il faut préciser aussi que le Bangladesh est une démocratie.
Oui, c'est...
Parlementaire.
Oui, parlementaire. Oui.
Et que c'est une femme qui est Premier ministre.
Oui, c'est Premier ministre, maintenant, Sheikh Hasina. Qui maintenant, c'est, ça fait 20 ans, presque 20 ans qu'il est en régime et il fait plein de choses pour développer le pays. Maintenant, le Bangladesh est un pays en train de développer économiquement. Il a lancé des programmes, inauguré le métro. Et le dernier octobre, M. Macron qui rend visite au Bangladesh et il est apprécié. Il regarde des choses, il propose de collaborer quelque part aussi. Qui, oh, bah, je ressemble à Dakar comme Paris. Je peux proposer pour construire quelque chose comme Paris, comme la Seine. Parce que nous avons aussi une rive à côté de la capitale.
Une rivière,
une fleuve à côté de la capitale.
Et donc ça vous rappelle ce fleuve,
oui.
La Seine à Paris.
Oui.
D'accord. Alors votre engagement s'est arrêté, vous me l'avez dit, parce que pourquoi? Expliquez-nous pourquoi vous avez quitté à un moment donné ce travail au gouvernement.
Parce que il y a quelque chose avec moi. C'est pas je suis pas d'accord avec parce que je suis une personne jeune mais j'ai besoin de travailler avec des personnes plus âgées. La mentalité était différent, il y a des choses comme corruption, un petit peu
la corruption oui.
Je n'aime pas ça aussi et j'ai pas de famille, vous savez, on a discuté déjà.
Oui.
Vos parents
jeunes.
Oui. J'étais seul là-bas. Et à cause de ça, je pense que si j'ai j'ai des diplômes, je peux travailler internationalement, quelque chose que je rêve. Et il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Après, j'ai commencé à envoyer mes dossiers de plusieurs entreprises du monde. Et après, j'ai réussi et j'ai commencé à travailler une entreprise italienne. Et pour cette raison, j'ai quitté mon entreprise m'a envoyé en Inde première fois. Et première fois que j'ai quitté mon pays.
Voilà, premier départ,
première
ouais. découverte. Et on reviendra tout à l'heure, après une pause musicale,
d'accord.
sur les circonstances qui vous ont amené à rester en France, des circonstances liées à la crise sanitaire du Covid. On en parlera tout à l'heure après une petite pause musicale. On écoute. Voix sans frontières sur Aligre FM. FM 93.1, il est 9h23 si vous nous rejoignez à l'instant. Émission spéciale comme toute la semaine puisque nous avons décidé sur Aligre FM d'accueillir des réfugiés politiques étudiants au DU Passerelle, inscrits au DU Passerelle de Nanterre pour apprendre le français. Une façon pour nous d'écouter leurs histoires, leur parcours, de parler de l'exil autrement qu'à travers des chiffres. Et des désignations vagues et sclérosantes. Alors depuis ce matin, 9h, nous écoutons Bechr qui vient d'Alep, qui a quitté Alep en 2017 après un engagement politique qui luttait pour davantage de liberté et contre le régime de Bachar al-Assad. Et puis Massoud, qui lui a quitté le Bangladesh après avoir travaillé au gouvernement pour travailler ensuite dans une multinationale, d'abord en Hollande. Bechr, je me tourne vers vous et je reviendrai ensuite vers Massoud. Vous êtes tous les deux d'ailleurs ensemble à Nanterre, donc vous vous connaissez bien. Alors Bechr, je reviens au moment du départ. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit, dans votre tête, lorsque vous comprenez qu'il faut partir? Il faut préciser d'ailleurs que vos parents et vos frères et sœurs étaient déjà partis et que vous les avez rejoints en passant la frontière à pied pour vous installer d'abord en Turquie. Est-ce que ce départ a été une évidence? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête?
Tout d'abord, je n'avais pas envie de partir, l'événement, les actions qui m'ont forcé de partir. Quand on était à Alep, à la partie libérée, on s'appelle ce parti de Alep qui n'y a pas de régime, et le terre libérée. Quand on était dans les terres libérées, après, le régime a décidé de contrôler cette terre avec un soutien de l'armée de Russes et l'armée d'Iran. Ils ont commencé de prendre cette terre. Ils ont fait un siège. On était dans cette siège presque 6 mois. 6 mois sans nourriture, sans beaucoup de choses. Après, ils ont commencé de contrôler cette zone. La situation était très très compliquée parce que le régime avançait à une zone. Nous retournions à autre zone Comme ça.
À mesure que le régime avançait, oui. Vous reculiez dans une zone
exactement.
plus lointaine, oui.
Quelqu'un préférait rester chez eux. Par exemple, j'ai un ami, il était avocat. Elle était avec nous, elle a participé dans la révolution, mais elle préférait rester chez lui. Malheureusement, quand le régime est arrivé, ils ont l'arrêté.
Elle a été arrêtée, c'était
oui,
une femme.
Elle était arrêtée et elle est morte. Sous la torture, malheureusement.
Vous m'avez dit avoir perdu beaucoup d'amis.
Oui, exactement. Oui. J'ai perdu tout d'abord mon cousin et après beaucoup d'amis. On les a perdus là-bas. Après. Il y avait une génération. Il y avait une.
Vous pouvez dire le mot en anglais. il y a, donc vous êtes parti. Donc vous avez décidé de partir à ce moment-là, vous.
Oui. Hein? Oui.
Vous passez
c'est
là.
C'est pas parti. C'est pas moi qui je décide.
Oui.
Tout le monde là-bas. Oui. Presque quand on est parti, on était presque 50 000 personnes qui on est. Déplacés ensemble, collectivement. Je suis sorti de Dalab. Après Dalab, toute la vie, toute chose a changé. Je ne peux pas rester en Syrie. Il y a une partie de terre libérée, mais ce n'est pas Dalab.
Oui. Alors,
comme je vous ai dit, pour les Abiens, les Alabiens, Alep, c'est le paradis. Quand on a perdu Alep, j'étais très déprimé, et toute chose a changé.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez passé la frontière? Est-ce que vous aviez l'espoir de pouvoir revenir un jour dans ce pays ou pas?
Quand j'ai quitté Alep, j'ai pensé que je ne peux pas revenir jamais. Parce que la situation à l'époque était très, très tragédie, très compliquée. Et mon espoir était cassé.
Oui.
Et mon espoir. Oui.
Et aujourd'hui, vous pensez un jour à retourner dans ce pays, dans cette ville que vous désignez comme votre paradis?
J'espère. Et je vais lutter pour ça. Je vais lutter vraiment. Je suis ici. Je vais lutter de tous les disponibilités.
Aligre FM 93.1.
Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre ville, de votre pays? Vous m'avez dit que vous étiez arrivé alors de Turquie où vous avez milité, hein, vous êtes passé en France, vous êtes arrivé à Nancy d'abord,
oui, oui.
Puis à Paris. Et là, c'est la grande ville. Alors, ouais. Dites-moi un peu, dites-nous, racontez-nous un peu votre arrivée en France et votre ressenti. Qu'est-ce que vous avez éprouvé?
Quand je suis arrivé en France, et les sentiments étaient très, très compliqués.
Très mêlés, très différents, c'est
très
ça?
Très différentes. Il n'y a pas quelque chose de clair pour moi. J'ai une question. Tout d'abord, Merci, je suis ici, je suis stabilité, je suis stable.
Stable.
Stable. Je suis dans la sécurité. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de quelque chose comme ça. Mais j'avais une question. Pourquoi je suis ici? Pourquoi j'ai quitté mon pays? C'est un peu compliqué. Pourquoi je me demande cette question maintenant? J'ai quitté mon pays dans une situation très, très difficile, très dangereuse. Pourquoi je me demande maintenant moi-même cette question? Mais c'est l'aspire humain. C'est pas clair. Ce n'est pas clair.
Alors, je vais demander la même chose à Massoud qui a quitté le Bangladesh, on le disait tout à l'heure, mais dans des circonstances très différentes, puisque c'était pour travailler dans une multinationale, d'abord en Hollande, puis en Inde, que vous connaissez bien, vous parlez l'hindi.
Hein. Oui, je parle l'hindi.
Vous êtes travaillé en Suisse, vous êtes travaillé en Italie, vous êtes un globe-trotteur en fait, comme le poète qu'on a choisi ensemble de lire tout à l'heure.
D'accord.
Quand vous êtes parti, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que c'était difficile de partir ou pas?
Pour moi, première fois, un petit peu, oui, il y a des tensions qui. Je vais quitter mon pays, mon confort. Mais quand j'ai commencé à travailler, c'était normal parce que je déjà savais la langue. La langue hindi, je parle couramment, mais c'était bien et j'ai de la chance de découvrir de la culture personnellement. C'était très bien, c'est une expérience qui c'est la première fois pour moi. Et après, oui, en Italie, quand mon entreprise m'a envoyé en Italie, c'est un peu choquant, c'est dans l'hiver. Comme maintenant, c'est très très froid pour moi parce que c'est un climat très très différent qu'en Asie. Mais maintenant, je me suis adapté et j'adore maintenant.
Qu'est-ce que vous aimez de Paris? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette ville où vous habitez désormais?
Oui, j'habitais Paris 13e arrondissement. C'est mon quartier, c'est très très calme et un quartier qui est chic et j'adore parce que il y a plein de choses nouvelles comme d'autres parties de Paris parce que c'est l'architecture c'est très joli parce que c'est pas l'ancienne architecture, c'est l'architecture moderne.
Oui, vous habitez près de la Bibliothèque nationale, vous m'avez dit, hein, en préparant cette émission.
Pendant la semaine, j'ai rendu visite là-bas deux fois, trois fois pour boire un café, regarder les gens qui dansent. Il y a des facilités, il y a des choses à faire, il y a des cinémas là-bas.
Alors, votre installation en France, ça n'a pas été tout à fait un choix, puisque finalement, dans ce périple qui vous permettait de travailler dans des multinationales dans différents pays, vous avez été stoppé sec par la crise du Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là?
Oui. C'est pour tout le monde la même chose, je pense. À cause de Covid, je perds mon travail immédiat. Soudain, je ne sais pas, je fais quoi. J'ai été perdu, j'ai été déprimé. Je ne sais pas comment ça marche parce que je n'ai jamais pensé rester ici en Europe parce que j'ai un travail qui est très, très luxe. Je découvre le monde avec mon travail. Je travaille plusieurs pays en Asie, en Europe. Et pendant mon travail, j'ai visité plusieurs pays aussi parce qu'il y a des vacances. et tout payant par mon entreprise.
Payé par votre entreprise.
Entreprise, ouais. C'était bien. Mais quand je perds mon travail ici en France, je ne sais pas, je fais quoi. Parce que pendant le Covid, il y a des restrictions. Je ne peux pas aller faire quelque chose. Et c'était un peu difficile parce que j'ai presque fini mon visa business. Après, j'ai contacté avec préfecture de la Paris. Il m'a dit que ok, t'inquiète pas, on a déjà connu toutes les choses. Et si vous êtes malade ou quelque chose, on peut le faire, on peut traiter vous. T'inquiète pas, restez chez vous. Après, on va voir. Et il m'a donné un papier qui permet, s'il y a des contrôles policiers, il peut regarder, je peux donner le papier. So, il m'a dit rien du tout parce que j'ai resté ici et j'ai perdu mon travail et je ne peux pas rentrer chez moi parce qu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas rien du tout.
Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez eu un travail dans des entreprises assez prestigieuses a contribué quand même à faciliter les choses lorsque vous vous êtes retrouvé coincé en France pour ne pas rester dans la clandestinité et obtenir un papier, des papiers ou pas, non?
Non, ben, parce que mon entreprise m'a envoyé après au Canada. On a déjà parlé pour ça parce que j'ai commencé à apprendre la langue un petit peu parce qu'il m'a envoyé au Québec. So, le région au Canada qui parle français aussi, c'est mieux. Mais soudain, c'est, à cause de Covid, j'ai perdu mon travail. Après, c'était un peu difficile, mais je remercie la dame, l'assistante sociale à la préfecture de Paris qui m'a assisté, qui m'a encouragé pour faire une demande d'asile ici, en France.
Alors, on va faire une petite pause musicale avant une lecture de texte que nous avons choisi ensemble, un texte d'un auteur syrien avec Besh et un texte d'un auteur
Bangladesh.
Avec vous, Massoud. Mais d'abord, je vous ai demandé à tous les deux de contribuer à l'habillage musical de cette émission. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais c'était du oud, du luth que vous nous avez fait écouter, Besh. Ouais. C'était votre choix. Et là, maintenant, j'aimerais qu'on écoute l'un de vos choix, Massoud. Ouais. Est-ce que vous pouvez donner le titre pour Enrico Mastrogiovanni, qui est aujourd'hui à la technique et qui attend que je sois un peu plus précise dans ma désignation?
Oui, et c'est une chanson qui décrivait des choses, et, comment je parle bengali, je vis ici en Bangladesh, quelque chose comme ça.
Ah, c'est une chanson qui parle de la vie au Bangladesh
et qui,
de la vie quotidienne.
Oui, et il est fier qu'il est bengali.
D'accord. Et ça s'appelle bien Ami Banglegan.
Ami Banglegan,
c'est ça. C'est trouvé,
oui.
Sur le conducteur, Enrico, on peut lancer. On y va, on écoute. Voix sans frontières sur Aligre FM.
Ami Banglae Gangai, Ami Banglar Gangai, Ami Amar Ami Ketirudin, Ei Banglae Kunje Pai. আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমি কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলায় আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুর, আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ,
বাংলায় আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুর। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে, করি বাংলায় হাহাকার। আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার। বাংলায় আমার দৃপ্ত স্লোগান ক্ষিপ্ত তীর ধ্বনি।
বাংলাদেশ sur Aligre FM 93.1. Dans le cadre de cette semaine Voix sans frontières, et Rana Massoud, pardon, qui nous a proposé cette chanson, est en train de dodeliner de la tête et de chanter. C'est magnifique. Voilà, ça fait partie des très belles choses qui se passent pendant cette semaine Voix sans frontières. Massoud, cette chanson, vous l'écoutez beaucoup dans votre chambre ici, oui, à Paris.
Oui, mais je chantais en même temps. Oui, c'est une chanson qui je suis fier de Bengali, je parle Bengali, je suis Bengali, je pense en Bengali, je fais toutes les choses en Bengali, parce que vous savez, c'est on a Bengali, on a une culture différente, on a un calendrier
oui.
Bengali. Pourquoi? Parce que on a maintenant 1400 25.
On est en 1425. C'est le calendrier.
Calendrier Bengali.
Bengali,
oui.
D'accord.
Et on a le Nouvel An aussi.
Et le Nouvel An, ça se passe comment alors au Bangladesh?
Oui, c'est une grande fête au Bangladesh. Si on ressemble avec l'anglais, c'est 14 avril. 14 avril.
Bon, alors je me tourne maintenant vers Bêche. On revient à votre parcours, Bêche. Hein. Je rappelle que vous êtes syrien d'Alep, et amoureux de cette ville.
Oui.
Et on le comprend ô combien, puisqu'il s'agit d'un creuset civilisationnel, d'une ville multimillénaire et qui est inscrite au patrimoine de l'humanité. Vous y avez grandi, vous l'avez quitté pendant la guerre. Et vous êtes désormais, comme Massoud, inscrit à l'Université de Nanterre pour apprendre notre langue, que nos auditeurs l'entendent. Vous maîtrisez déjà bien, et vraiment merci de vous prêter à cette interview en français. Voix sans frontières sur Aligre FM. Alors, je vous ai demandé, Bêche, de lire un texte. Quand je suis venue vous rencontrer à l'Université de Nanterre, on a écouté beaucoup de choses et de la radio, et je vous ai fait écouter un texte de François Morel,
oui.
Un chroniqueur humoriste.
Il était magnifique.
Voilà, qui vous a beaucoup plu, je crois, et qui s'appelait « Il neige ». Et je crois que c'est ce texte qui vous a inspiré un texte.
La pluie.
La pluie, et on vous écoute, vous allez nous le dire, puisque...
Je ne sais pas si elle est bien, mais...
il est très beau ce texte, et quel meilleur vecteur que la poésie aussi pour parler de soi, de l'exil, de son parcours, de son histoire. On vous écoute et on va vous mettre un petit tapis musical que vous avez choisi vous-même d'ailleurs.
La pluie. La pluie ici, la pluie là. On a encore soif. La pluie lave les rues, les villes, les usines, et la rose les arabes. et la rose tout, mais nos cœurs ont soif. Nos corps sont encore salés. La pluie est partout. Je me noie. Nous nous noyons par nos folies. L'eau est autour de moi. L'eau est partout. Mais j'ai soif. Tout cette eau ne peut pas m'assouvir. L'eau arrive à tout mon corps, mais n'arrive pas à mon cœur. L'eau arrive à tout mon corps, mais n'arrive pas à mon cœur. J'ai soif. Je ressemble à un cactus. Je n'ai pas besoin d'eau, mais j'ai soif. Quelque part, non loin de là, les enfants meurent de soif. Ils meurent de faim. Et j'ai l'impression d'être la saison. Je me noie, mais j'ai soif. La vie a perdu son goût. Quelque chose ne me tente plus de continuer dans cette vie. J'ai perdu ma passion. J'ai perdu mon espoir. Et là-bas, dans un endroit, non loin, il y a des enfants qui meurent de soif et de faim. Pleut au ciel, pleut de l'eau et de l'amour, pleut de la paix sur la terre qui n'a pas vu la paix. Pleut là-bas, frappe aux portes, pénètre les maisons, habite avec les gens qui méritent la vie. Merci.
À vous, Bechra, pour ce très beau texte que vous avez très bien lu. Merci. Et dans une langue que vous commencez seulement à apprendre, et j'espère que nos auditrices et nos auditeurs entendront à quel point vous aimez apprendre cette langue qui vous permettra, je l'espère, d'accomplir vos projets, de reprendre vos études en droit, m'avez-vous dit. Oui. Alors, on a choisi ensemble un autre poème et ensuite on parlera poésie aussi avec vous, Massoud. Mais vous avez choisi, Bechra, de nous faire découvrir un poète syrien, oui. Un très grand poète. Je vous laisse le présenter, c'est Nezahr Kabbani.
Nezahr Kabbani, il est poème syrien, il est très connu. Il adore son ville, mais ce n'est pas Alep, c'est Damas. Elle a vécu une vie comme moi. Elle était dehors en Syrie à cause de la politique. Elle était objecteur de la régime de Syrie. Mais elle a de la chance parce qu'elle est morte. Elle est morte dans Syrie.
En Syrie.
J'espère que j'aurai de la chance pour mourir en Syrie.
Alors, on va aller lire ce texte, vous en arabe d'abord, et puis moi en français, si, pour la traduction. On vous écoute.
Ok. Al-Qasida Dimashqiya, le titre.
Le poème d'Amassène.
هذه دمشق وهذه الكأس والراح إني أحب وبعض الحب ذباح
Voici Damas, voici le verre et le vin. J'aime. Et l'amour est parfois assassin.
Vous préférez...
Continuer.
Oui, c'est mieux, je pense. Désolé. هذه دمشق وهذه الكأس والراح إني أحب وبعض الحب ذباح أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا، زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحببت، جراح مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح. للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تخفو حين ترتاح. طاحنة البن جزء من طفولتنا، فكيف أنسى وعطر الهيل. فواح هذا مكان أبي المعتز، منتظر ووجه فائزة حلو. ولماح هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح. هل في العشق إيضاح؟ كم من دمشقية باعت أساورها حتى أغازلها، والشعر مفتاح. أتيت يا شجر الصفصاف معتذرا، فهل تسامح هيفاء ووضاح. 50 عاما وأجزائي مبعثرة فوق المحيط، وما في الأفق مصباح. تقاذفتني بحار لا ضفاف لها، وطاردتني شياطين وأشباح. أقاتل القبح في شعري وفي أدبي حتى يفتح نوار. وقد داح، ما للعروبة تبدو مثل أرملة، أليس في كتب التاريخ أفراح. والشعر ماذا سيبقى من أصالته إذا تولاه نصاب ومداح؟ وكيف نكتب والأقفال في فمنا، وكل ثانية يأتيك سفاح. حملت شعري على ظهري فأتعبني، ماذا من الشعر يبقى حين يرتاح؟ Merci.
Merci Vache pour cette très belle lecture en arabe. Alors je vais en donner une traduction, mais sans aller jusqu'au bout, pour qu'on ait le temps d'écouter aussi la poésie du Bangladesh. Le poème d'Amasène. Voici Damas, voici le verre et le vin, j'aime. Et l'amour est parfois assassin. Je suis le Damasène. Si vous autopsiez mon corps, en couleraient des grappes de raisin et des pommes. Et si vous m'ouvriez les veines avec votre poignard, vous entendriez dans mon sang les cris de ceux qui nous ont quittés. La greffe du cœur soigne quelques-uns de ceux qui ont aimé, mais pour mon cœur, lorsque j'aime, aucun chirurgien. La demeure de Fatima va-t-elle toujours bien? Le sein est en alerte et le kohol chante. Le vin, ici, est un peu parfumé. Les yeux des femmes de Cham sont-ils des verres? Les minarets de Damas pleurent quand ils me serrent dans leurs bras. Les minarets, comme les arbres, ont des âmes. Les jasmins ont des droits dans nos maisons. Le chat, chez nous, sommeille là où il se sent bien. Le moulin à café est une partie de notre enfance. Comment oublier quand le parfum de la cardamome est partout? Merci. Alors, on va finir avec vous, Massoud, après cette lecture de Nizar Rabani, poète syrien que vous avez choisi, Bèche, pour illustrer cette émission. Nous avons choisi ensemble Massoud, et j'ai redécouvert grâce à vous un auteur que je ne connaissais que de nom, Rabindranath Tagore. Mais quel auteur! Il a été d'ailleurs republié aux éditions Quarto en 2011, et il a eu le prix Nobel, oui, en 1913. Il était romancier, dramaturge, poète, peintre, musicien et, comme vous, globe-trotteur, puisqu'il a parcouru le monde entier, oui, de la Grande-Bretagne au Japon en passant par l'Allemagne. Il était fils de philosophe, vous êtes, oui, fils de professeur. Il est né en 1861 et mort en 1941. Il a laissé une œuvre extrêmement abondante, et nous avons choisi ensemble, et ce sera pour clore malheureusement cette émission passée trop vite en votre compagnie, et quelle compagnie, un poème que je vous laisse lire dans votre langue et dont je lirai la traduction à mon tour en français.
D'accord.
On vous écoute, Massoud.
Nirzorer shopno bhongon, Rabindranath Thakur. Ajiye probhate robir kor, kemone polish praner por, kemone polilo gohar adhare probhat pakhir gan. Najani keno re etodin pore jagiya uthilo pran, jagiya uthise pran, ore uthilo utheche bari, ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুখিয়া রাখিতে নারি। থর থর কাঁপিছে ধূসর শিলা রাশি রাশি পড়েছে খসে, ফুলিয়া ফেনিল সলিল গর্জে উঠেছে দারুণ রোষে। হেতায় হেতায় পাগল প্রায় ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়, বাহিরেতে চায় দেখিতে না পায় কোথায় কার দ্বার। কেন রে বিধাতা পাষাণ হে চারিদিকে তারে বাঁধন কেন, ভাঙারে হৃদয় ভাঙারে বাঁধন সাদরে আজিকে প্রাণের বাঁধন, লহরীর লপরে লহরী তুলিয়া আঘাতের পর আঘাত করো।
Le réveil d'une cascade, tant de beauté, tant de bonheur et tant de jeu. Ailleurs, où les trouverai-je? Emporté par la fougue de la jeunesse, je ne sais vers qui je m'en irai. Mon envie sans fond, mon espoir sans fin, c'est découvrir le monde. Irrésistible est mon désir de déferler tout autour de la terre. Je peux déverser tout l'amour existant, je peux emporter tout le temps qui est, je peux envahir toutes les contrées, que pourrais-je espérer d'autre, hormis cette seule envie du cœur ? Voilà un poème de Rabindranath Tagore, immense écrivain de votre pays, le Bangladesh. Massoud, qu'on avait envie de partager avec nos auditrices et nos auditeurs. Aujourd'hui, pour cette émission spéciale consacrée à des voix sans frontières, des voix et des visages qui sont les vôtres. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être venu parler trop peu, malheureusement, mais suffisamment pour qu'on ait envie de mieux vous connaître, de ce parcours d'exil qui est le vôtre. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir un statut de réfugié, ce n'a pas été sans mal, d'apprendre le français à l'université de Nanterre. D'autres, malheureusement, n'ont pas cette chance. Certains périssent en voulant rejoindre la France ou l'Europe, on le sait. Et c'était très important pour nous aussi que vous nous aidiez à comprendre combien nous avons besoin de l'autre et de l'altérité pour vivre. Merci à tous les deux, Bachir et Massoud, d'être venus à ce micro aujourd'hui. Merci également à Enrico Mastro Giovanni, fidèle aux commandes et sans qui rien ne serait possible. Merci également à Charlotte Foucault et Stéphania Koubedou. Charlotte Foucault est l'une de vos enseignantes. Elle vous apprend la langue française. Stéphania Akoubedou-Prou est maîtresse de conférences. Toutes les deux sont directrices du FET à Nanterre. Ne me demandez pas de vous dire ce qu'est le FET à Nanterre, mais c'est un bien bel endroit où on accueille des étudiants désireux d'apprendre le français, de parler cette langue et de concrétiser des projets d'insertion professionnelle en France. Merci donc à Charlotte Foucault, Stéphania Koubedou-Prou. Merci aussi à Singa qui soutient ce projet et à la mairie de Paris. 9h59 sur Aligre FM 93.1. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'émission Au fil des pages, présentée aujourd'hui par Thierry Gilibeuf. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez à l'écoute, il y a d'autres étudiants de Nanterre qui viendront vous parler de leur parcours d'exil tout au long de cette semaine. Réagissez, retrouvez les podcasts sur notre site aligrefm.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Voix sans frontières sur Aligre FM.